hectares. Les états de privation de la vie m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance que les crédences petites bourgeoises de la bonne santé.
Et tu cherches un
Un emploi de chanteur d'opéra.
Chanteur d'opéra, c'est une belle profession et tu es intéressé par l'opéra?
Non, pas vraiment, non.
Non, par le chant, tu sais chanter?
Non plus, non.
Non, tu connais les... Non.
Mais que diable est-il faire dans cette galère?
Vous avez raison, mais hâtez-vous!
Y avait-il quoi l'autre problème?
Cela est vrai, mais faites promptement, vous dites galère!
Alors, cette galère me tient au cœur.
Une histoire pas comme les autres. Une histoire qui vous sera racontée en musique et par les instruments de l'orchestre.
Bonjour et bienvenue dans votre numéro du mois de décembre de Scène de vie, vie de scène, l'émission qui prendra encore son temps. Bonjour Nathalie, bonjour Cécile.
Bonjour JC.
Bah, c'est un plaisir de vous retrouver, ou plutôt que je me retrouve moi-même avec vous pour cette émission.
Plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui.
Cette émission sera cinéma, mais nous en reparlerons dans un petit instant. Retrouvons tout de suite ce qui nous attend pour aujourd'hui. Nous parlerons littérature pour commencer.
Oui, littérature, mais théâtre également, pièce, puisqu'avec le conte philosophique de Voltaire, Candide, qui sera présenté sur Louviers le 18 décembre.
Nous parlerons également cinéma avec notre invité.
Oui, bonjour Pierre Carniaux, qui est en plateau avec nous. Bienvenue.
Bonjour Cécile, bonjour Nathalie, bonjour JC.
Alors nous parlerons cinéma un peu plus loin.
Ah pardon, oui, moi c'est vrai, mais pour moi tout le cinéma est résumé avec Pierre, donc ça me suffisait largement, mais pour nos éditeurs effectivement il faut en dire un petit peu plus. Donc Pierre Carniaux, vous êtes réalisateur et vous êtes aussi le programmateur cinéma de la scène nationale Évreux-Louviers, et donc on parlera avec vous du cinéma à la scène nationale Évreux-Louviers en général, et plus précisément du premier rendez-vous de l'année, la journée cinéma numéro 1 autour de Jacques Tati.
Et puis nous parlerons de Corinne Dada également.
Oui, nous aurons en invité par téléphone l'auteur, metteur en scène Mohamed El Khatib, qui va présenter une soirée particulière autour d'une figure, une rencontre improbable entre un auteur, une femme de ménage et une danseuse. Il nous parlera de Moi, Corinne Dada, mais également de sa pièce documentaire Finir en beauté.
Très bien, et nous terminerons cette émission avec un agenda non exhaustif des sorties qui nous attendent pour ce mois de décembre. Et tout de suite, sans plus attendre, nous vous proposons de commencer avec notre extrait sonore.
Un disque, votre premier disque, vous vous en souvenez, monsieur Leclerc?
Mon quoi?
Premier disque.
Mon premier disque? Non, c'est des chansons que j'ai. J'ai pas vraiment eu de disque, hein.
Non.
Non.
Vous les avez apprises comment, toutes vos chansons?
Comment?
Comment vous les avez apprises, toutes ces chansons?
Ben, on les a... par la radio. Ah. Oui, c'était... Radiola. C'était une marque allemande. Ben, ça devait être en 1936. C'est vieux, parce que je suis vieux.
Ça se voit pas.
Je suis un ex-jeune, quoi.
Alors, JC, nous étions où, on présume, et avec qui et dans quel cadre?
Alors, merci de me poser cette question. On a bien fait de préparer l'émission. C'est un projet que la Radio Principe Actif a mené avec la compagnie Itinéraire Bis sur la maison de retraite de Louviers. Alors, on appelle ça des EHPAD, avec les résidents de l'EHPAD de Louviers et d'Elbeuf. C'est un travail qui est en place depuis le mois d'octobre. Un travail avec les résidents de ces maisons de retraite où on évoque des souvenirs ou des thèmes particuliers. et nous réalisons l'émission avec ces personnes âgées. Je tiens à préciser que ce petit extrait est un extrait non utilisé parce que nous avons énormément de matière et je trouvais que c'était intéressant de le partager maintenant. Cela dit, vous pouvez retrouver la deuxième émission du cycle Radio Ricochet, c'est comme ça que les personnes âgées ont souhaité appeler ce projet. Vous pouvez trouver la deuxième émission de Radio Ricochet dans les podcasts de Principe Actif ou sur le Facebook de la radio également, car c'est un projet très particulier que je vous invite à aller tendre l'oreille. C'est 40 minutes de paroles d'anciens, mais pour une fois on ne nous le présentera pas comme souvent c'est présenté, avec une leçon de morale des aînés envers la jeunesse. C'est un partage de vie et de la poésie, tout simplement. Voilà, donc cette émission est à retrouver en intégralité dans la catégorie des podcasts sur le site de Principe Actif ou sur le Facebook de Principe Actif. Nous faisons rarement notre autopromotion, mais c'est un projet vraiment que nous souhaitions partager plus largement que sur la diffusion classique d'une des émissions. Voilà pour ce projet.
Ça fait du bien aussi de se faire des compliments de temps en temps, quand c'est un truc qui nous tient à cœur.
Alors, ce ne sont pas nos compliments directement à nous, parce que vraiment, ce travail, ce sont les résidents qui ont témoigné, qui ont choisi les thèmes, qui ont validé les montages que nous leur avons proposés, qui ont choisi ce qui était retenu, pas retenu, dans quel ordre, et comment est-ce qu'on allait l'agrémenter. Donc, c'est vraiment un travail de coproduction avec les résidents. Ce n'est pas uniquement une prise de parole réalisée par la compagnie Itinéraire Bis et Principe Actif, qui ensuite est joliment mise en scène par nos soins. Non, c'est vraiment les résidents qui ont travaillé de A à Z sur la réalisation de cette émission.
C'est leur émission.
C'est réellement leur émission. Alors nous, on a fait l'encadrement technique, bien entendu, parce que ça ne s'invente pas de prendre du son et de faire du montage sur des logiciels qui les dépassent complètement, pour le coup, à tous ces résidents. Radio. Mais c'est eux qui étaient derrière nous pour nous dire... Nous voulons ça, nous ne souhaitons pas ceci, nous voulons le mettre comme ça, nous voulons le mettre comme ci. Et voilà, cette émission, c'est vraiment le résultat d'un travail de 6 semaines tout de même avec les résidents. Mmh. Voilà, on en aura bien parlé, j'espère.
Ben oui, bah, oui, merci en tout cas, merci de ce son vraiment d'une belle rencontre.
On a voilà, pris. Radio Ricochet, le thème, c'est le travail.
On enchaîne tout de suite avec notre première pause musicale. On y va, Marvin Gaye, I Heard Through the Grapevine.
C'était pour moi normalement de dire le titre.
Le prochain.
Before
Marvin Gaye, comme tu le disais si bien, Cécile. C'est ça, tu attends à ce que je donne le titre.
Tu t'en sors bien.
C'est ça. Ben non, mais Marvin Gaye, tu l'avais annoncé en début, car aujourd'hui, la sélection est autour de la Motown.
Ouais, on a eu envie. Voilà.
Et ben, on a bien fait d'avoir eu envie.
Je trouve aussi.
Cécile.
Aujourd'hui, on prend le temps, comme d'habitude, d'attirer votre attention sur un rendez-vous à la scène nationale Évreux-Louviers, à Louviers, donc au théâtre du Grand Forum, Candide de Voltaire, par la compagnie Drôle de Bizarre, mis en scène par une très jeune metteur en scène, Maëlle Poëssy. Nat, tu t'y colles un petit peu, tu nous racontes l'histoire de Candide.
Je vous fais le synopsis.
Voilà.
Oui. Donc, en fin de compte, Maëlle Poëssy, 26 ans, avec la compagnie Drôle de Bizarre, nous présente sa création, puisque ce spectacle n'est pas encore créé, va se créer là prochainement. Donc, dans le château du baron de Thunder Ten Tronk, nom spécifique, n'est-ce pas, le plus beau des châteaux de la Westphalie, vit un jeune homme simple et droit qui s'appelle Candide. Il a été élevé par Pangloss, le meilleur des philosophes, qui lui répète depuis l'enfance que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Or, un jour, que Candide est surpris en train d'embrasser Cunégonde, la fille du baron dont il est épris, il est chassé de ce paradis. Commence alors une véritable épopée pour Candide. D'abord, enrôlé de force dans une guerre monstrueuse, il parvient à s'enfuir et à retrouver son vieux maître de philosophie qui lui apprend que le château a été brûlé. Pour retrouver celle qu'il aime, Candide parcourt le monde, faisant l'épreuve de son horreur. Tout n'est que massacre, injustice, fanatisme religieux, intolérance, esclavage. La nature même est hostile et n'épargne pas les hommes. Tremblements de terre, tempêtes et naufrages sont constants. Toutefois, Candide fera la découverte du Nouveau Monde et de l'Eldorado, un havre de paix où ruisselle l'or et la douceur de vivre. À travers ce parcours initiatique, Candide doutera de la parole de son maître, perdant une à une ses illusions. Il se contentera alors de cultiver son jardin et de célébrer un bonheur simple. Voilà pour l'histoire. Quelle aventure!
Alors ça me rappelle des souvenirs, parce que c'est un grand classique, le Candide de Voltaire. Je me souviens l'avoir travaillé à l'école. Je ne sais plus dans quelle classe, mais en tout cas, c'est vraiment du grand classique. Ça doit pas être évident, d'ailleurs, de réinterpréter un classique de ce genre, j'imagine.
Bah, en même temps, c'est une pièce très courte, très condensée, qui, je pense, pour justement la compagnie, doit vraiment, qui est une jeune compagnie, doit vraiment aussi leur parler dans leur acte de création, de découvrir aussi de ce passage d'eux-mêmes de l'âge adulte. C'est vraiment la thématique qui doit faire aussi écho à la compagnie.
Ouais, parce que Maëlle Poëssy, donc la metteur en scène, elle a quand même 26 ans. 26 ans pour une metteur en scène, c'est très jeune. Et visiblement, elle est entourée de jeunes acteurs également.
Oui. L'ensemble de sa compagnie qui se nomme la compagnie Drôle de Bizarre, avec déjà toutes ces interrogations de ce monde, rien que dans le titre de la compagnie. Et je pense qu'elle a voulu c'est elle-même ce qu'elle dit, hein. Elle est vraiment intéressée de faire l'expérience de la désillusion du monde et d'explorer avec son collectif de jeunes artistes tous les questionnements que cela entraîne. Est-ce qu'on se résout, on cherche à combattre ce monde, à lutter contre ces désillusions? Quelles solutions on cherche pour y survivre? Quelles leçons de vie tire-t-on de cette confrontation? Enfin voilà, c'est aussi la façon d'éprouver le monde et la façon d'éprouver le plateau, c'est-à-dire l'espace de création, avec ses limites que je pense que cette compagnie interroge aussi dans ce spectacle, dans cette pièce.
Donc ce sera, ça s'appelle Candide, si c'est ça le meilleur des mondes. Et c'est le 18 décembre à 20h30 à Louviers, au théâtre du Grand Forum.
Voilà, et puis ça fait jamais de mal un classique tel que Candide, où la pertinence, la naïveté au service de l'ironie, quoi.
Ouais.
Nous repartons
avec
en musique.
Avec la Motown.
Avec la Motown toujours. Le deuxième choix, c'est toi, Cécile, qui l'a fait, non? Temptation.
On l'a fait en commun avec Nathalie.
Oui. Ah d'accord.
Voilà.
Il se passe des choses quand je ne suis pas là.
Oui. Voilà. On échange. Donc oui, on a choisi donc de Temptation avec Papa Was a Rolling Stone.
It was the 3rd of September. That day I'll always remember. Yes, I will. 'Cause that was the day that my daddy died. Chance to see him. Never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. I looked at my mother and I said, hey mama, is it true what they say that papa never worked a day in his life?
And mom, there's some bad talk going around town, told my papa had 3 outside children and another wife, and that ain't right.
Some talk about Papa doing some storefront preaching, talking about saving souls and all the time leeching, dealing in debt and stealing in the name of the Lord. Mama just hung her head and said,
Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. And when he died,
oh, he left just was alone. Never was much on thinking. Spent most of his time chasing women and drinking.
Mama, I'm depending on you to tell me the truth.
Papa was a rolling stone.
Well,
he laid his hat was
his home. And when he died, all he left us was alone.
The Temptations avec Papa was a Rolling Stone.
Oui, bonjour Pierre Carniaux. Merci d'être notre invité aujourd'hui.
Bonjour Nathalie Dionis.
Alors, Pierre, vous êtes réalisateur de cinéma et également programmateur de la programmation cinéma à la scène nationale Évreux-Louviers, dont vous, notamment, vous proposez 3 journées cinéma pour le spectateur sur la saison, donc avec une première édition, première journée le 13 décembre avec Jacques Tati, puis s'en suivra, je crois, Agnès Varda, puis un hommage à John Cassavetes. Alors, voilà, on ne s'attend pas forcément, dans une scène nationale, à avoir une programmation cinéma présente, puisque je pense que dans la plupart des esprits ou des représentations, c'est plutôt une institution de spectacle vivant. Et, bah, du coup, comment cette spécificité-là est arrivée dans ce lieu? Pourquoi, voilà.
Alors ça serait peut-être des personnes qui sont là depuis plus longtemps que moi à la scène nationale qui pourrait y répondre.
Donc il y a un passé.
Oui, il y a un passé. Non, mais par contre, c'est vrai que moi, je me sens responsable et porteur d'un flambeau à faire vivre et à transmettre. C'est-à-dire que, effectivement, ça fait déjà, je pense, au moins une vingtaine d'années, plus d'une vingtaine d'années, qu'il y a un certain nombre de personnes à Évreux et dans la région qui sont très attachées au cinéma, à la cinéphilie, et qui le font vivre d'une manière tout à fait exemplaire. Et donc, ce partenariat, ce dialogue avec la scène nationale existe depuis, encore une fois, il me semble, plus d'une vingtaine d'années.
Et alors justement, comment on s'arrange de cet héritage quand on en hérite comme ça, il y a combien de temps maintenant? 4 ans, 5
alors
ans?
Alors moi, ça fait 4 ans, enfin c'est la 4e année. Et puis avant d'être réalisateur, avant d'être programmateur, j'étais aussi comédien. Et puis ce que j'ai proposé au directeur Philippe de Roder quand on s'est rencontrés, c'est que je lui ai dit « je connais très bien ». La programmation spectacle vivant de la scène nationale et le cinéma est désormais ma vie depuis quelques années. Moi, je vais essayer de faire le pont entre la programmation spectacle vivant et la programmation cinéma.
Justement, Pierre Carniaux, quel lien vous mettez entre le spectacle vivant et le cinéma qui n'est pas forcément intégré au spectacle vivant ?
Alors, bon, par exemple, là on a des exemples très simples. À la scène nationale, on présente un spectacle Othello, variation pour trois acteurs. Bah, au cinéma, je vous propose de redécouvrir Othello dans la version d'Orson Welles. On fait une journée Jacques Tati. Mais Jacques Tati vient d'où ? Jacques Tati vient du cirque, il vient des arts de la scène. Cassavetes, il vient d'où ? Il vient du théâtre aussi.
Et donc on retrouve ces particularités de réalisateurs à travers leurs œuvres.
Absolument. Bah, je pense
c'est
que
les codes du spectacle vivant dans le cinéma.
Bah, en tout cas, c'est sûr que le spectacle vivant a nourri le cinéma. Et puis, de plus en plus, maintenant, dans un mouvement inverse, le cinéma nourrit beaucoup le spectacle vivant. On voit de plus en plus d'images sur scène.
Oui, et donc, dans cette insertion de cinéma dans le théâtre, de théâtre dans le cinéma, vous pouvez un peu nous dire les liens que vous avez faits sur la saison entre Agnès Varda, entre un Jacques Tati. Là, si on s'attache, si on regarde plus précisément sur le contenu de vos propositions et le parallèle qu'on peut faire avec l'actualité des spectacles ou ce qu'a envie de développer Philippe de Roder dans son projet artistique, peut-être.
Alors, sur la saison, évidemment, on dialogue beaucoup avec Philippe de Roder et puis je fais très attention à ce que lui, il programme. Sur la première journée, il m'a demandé d'imaginer une journée en écho au festival Automne en Normandie, qui par ailleurs va nous manquer, n'est-ce pas ?
Oui, je fais une parenthèse, une précision, puisque c'est la dernière édition du festival Automne en Normandie qui existe depuis 20 ans sur le territoire.
Et voilà, donc pour cette malheureusement donc dernière édition, l'intitulé de la thématique choisie était « L'humain est l'artificiel ». Et voilà, il me semblait pertinent du coup de proposer une journée Tati puisque le travail de restauration a été achevé récemment et que tous les films sont ressortis en salle cet été et qu'il me semblait important qu'on puisse en profiter ici. Voilà, ensuite Agnès Varda, on s'est proposé de réfléchir à une thématique pour le festival Ciné-Scène qui aura lieu au mois de février. L'intitulé sera Visage de femme.
Alors Ciné-Scène, c'est aussi un événement dans la programmation de la scène nationale, c'est toujours en lien.
Absolument. Le festival Ciné-Scène, c'est pareil, c'est un festival qui existe depuis plus de 20 ans et qui propose à la fois, où la scène nationale Évreux-Louviers propose à la fois du spectacle vivant et du cinéma. Et donc là, on aura à la fois Violente femme de Christophe Honoré, un texte de Christophe Honoré, qui est aussi réalisateur, dont on a pu voir récemment Métamorphose. Et puis, également La bonne âme de Sechuan, mise en scène par Jean Bellorini. Et voilà. Et moi, en face de ça, la direction, Philippe de Roder, choisit ses spectacles. Et puis moi, je dis, si on travaille sur les visages de femmes, sur la figure de la femme, alors j'aimerais qu'on consacre une journée à cette cinéaste immense qu'est Agnès Varda, qui par ailleurs ne manquerait pas de dire qu'un festival de films de femmes n'a pas de sens. voilà. Et troisième journée, pareil, les films de Cassavetes ont été restaurés assez récemment. Et ça me semble tout à fait logique pour un artiste qui a fait une grande partie de son parcours au théâtre, de proposer aussi du coup les films de ce cinéaste dans le cadre de la scène nationale. J'aimerais aussi évidemment rappeler que la scène nationale Évreux-Louviers est un établissement de service public et que pourquoi un établissement de service public comme la scène nationale présenterait du cinéma, c'est finalement pour moi c'est assez simple et assez sain, c'est-à-dire que par exemple à Évreux, on a un cinéma qui est maintenant la propriété du groupe Gaumont-Pathé et qui est en situation de monopole. et c'est important que donc et dont la vocation est commerciale, et il y a pas de mal à ça, mais ça me semble aussi important qu'un établissement de service public puisse faire des propositions autres.
Oui, parce qu'on a parlé des trois journées cinéma, mais il n'y a pas que ça, parce que dans le cadre des Ciné+, la scène nationale intervient également sur une programmation, pour le coup, plus régulière que c'est une journée par trimestre, quasiment.
Absolument. Il y a un rendez-vous, puisque évidemment, on ne travaille pas contre le pâté, on travaille avec le pâté. La scène nationale a un partenariat avec le pâté Évreux. Et dans le cadre des séances Ciné+, qui sont les séances arrêt-essai du cinéma Gaumont-Pâté, la scène nationale bénéficie d'une séance par mois, à peu près. Avec aussi des séances qui sont destinées au jeune public, qu'on a intitulées cette année, parce que ça date de cette année, les Ciné+ Juniors.
J'imagine aussi que la valeur ajoutée, enfin ce qu'apporte aussi une telle structure, c'est une question que je vous pose, c'est aussi d'être en lien direct avec les réalisateurs et monteurs ou scénaristes, et de peut-être favoriser plus encore la rencontre entre le public et ces personnes physiquement. Vous faites venir des intervenants, enfin, au-delà, je dirais, de la simple diffusion ou de programmation en tant que telle de cinéma, il y a aussi les artistes, les gens. C'est là où se place aussi l'intérêt de...
C'est extrêmement important. C'est vrai que le cinéma, malheureusement, n'est plus tellement un endroit de dialogue et d'échange. Mmh. Ça tend de plus en plus à devenir un endroit de consommation. Et effectivement, le pâté, par exemple, n'a pas les moyens, ou en tout cas n'a pas de budget dévolu à l'accompagnement des films. Le pâté a des invités simplement lorsque les distributeurs, dans le cadre d'une campagne commerciale, leur envoient des gens, des équipes.
Mais les avant-premières,
etc., voilà. etc. Nous, à la scène nationale, effectivement, on a un budget, même s'il est modeste, mais il existe, pour pouvoir faire venir des artistes, des gens qui ont réellement participé au film. Bon, cette année, la saison a magnifiquement commencé. La première carte blanche était dédiée à « Adieu au langage » de Jean-Luc Godard, et on a eu son chef opérateur qui est venu nous parler à la salle de son travail, et de cette expérience unique que c'est de travailler avec Jean-Luc Godard. Et je pense que tout le monde, pour donner un exemple, puisque quand je dis Godard, je sais qu'il y a évidemment énormément d'auditeurs à qui ça doit faire peur, mais tout d'un coup, quand on a quelqu'un qui travaille avec lui depuis 10 ans, et qui est jeune et qui est sympathique, et qui dit « mais Godard, c'est quelqu'un de drôle et de gentil », l'image change aussi.
Justement, pour rebondir avec ce que vous dites, Pierre Carniaux, il y a un côté quand même impressionnant à cette programmation. Les films sont relativement anciens. Sur les Tati, c'est 58-67. Agnès Varda, c'est 62. Bon, il y a un 85, je crois que c'est le plus récent. Ça peut impressionner également le spectateur. Et puis, Cassavetes, il y a c'est 68 et 76. Vous voyez, ça peut être impressionnant aussi pour un spectateur non averti, quelqu'un qui n'est pas forcément au fait de toutes ces propositions ou qui ne connaît pas le travail de ces réalisateurs en particulier, ça peut être impressionnant aussi, ce genre de programmation, non ?
Ouais, alors du coup, si c'est impressionnant, moi je suis là pour tendre la main, quoi. Et puis pour dire n'ayez pas peur, c'est génial.
Mais justement, comment est-ce qu'on voilà, aujourd'hui j'écoute l'émission, on est en train de parler très sérieusement de réalisateurs, très sérieusement de films. Je pourrais me dire, est-ce que c'est pour moi finalement? Est-ce que c'est pas un cinéma qui va me dépasser?
Non, je crois pas. Enfin, justement, c'est la marque des très grands, quoi. Enfin, Tati, je me réjouis parce que je sais déjà qu'on aura une salle pour une fois qui sera où on aura tous les âges. Et puis ça parle à tout le monde, quoi. Enfin, pour le coup, même si effectivement c'est un cinéma extrêmement singulier, que c'est un rythme auquel on est de moins en moins habitué, puisqu'on est dans une ère de vitesse et d'instantanéité, etc., et que Tati travaille plutôt à contre-temps, on va dire, mais néanmoins, moi je suis absolument convaincu qu'on va avoir une salle qui va être être mort de rire, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même...
Qui sera pas si sérieuse que ça, finalement.
Ouais, voilà, c'est pas parce qu'on parle sérieusement ou parce qu'il y a quand même des repères importants qu'on ne peut pas ne pas rire en salle.
Non, mais le problème, c'est vrai que... par exemple, Tati, je suis sûr qu'il aurait été... il aurait détesté être statufié, quoi. Mmh. Enfin, au contraire, il avait peur d'être dépassé et d'être... de disparaître et d'être mis comme un objet de curiosité. Donc moi, mon boulot aussi, avec effectivement des films plus anciens, c'est de dire ces films-là sont vivants.
Et restent actuels sur les thématiques.
Absolument. Ça, on en reparle avec plaisir. Je sais qu'on doit parler plus précisément de Tati, mais oui, pour Tati, c'est absolument évident. Juste, on en reparlera après si vous voulez, mais
c'est prévu qu'on zoome un peu plus particulièrement sur le travail notamment de Jacques Tati.
Pour justement aller un petit peu plus loin sur la médiatisation de ce cinéma auprès des publics, est-ce que vous menez des actions autres directement en lien avec le public, vous, Pierre Carniaux, avec votre activité, votre responsabilité de programmateur, vous allez comment devant le public pour justement tendre la main? Vous y allez comment? Vous leur tendez la main comment?
Alors il y a deux choses. Déjà je suis présent à toutes les séances. Sauf à de rares exceptions, mais je suis présent. Et puis je suis quelqu'un qui aime échanger. Je suis quelqu'un de passionné. Donc moi c'est toujours un plaisir pour moi de parler de mes choix et puis de parler des goûts des autres. Donc voilà, déjà, c'est déjà tout simplement ça, être là. Et puis, effectivement, j'interviens aussi auprès des classes en option audiovisuelle au lycée Senghor depuis 3 ans maintenant. Et ça aussi, c'est extrêmement important pour moi, puisque quand on parle de transmission, je pense évidemment... d'abord aux plus jeunes et que ce sont eux les spectateurs de demain et effectivement plus jeunes. Bon, voilà, je peux me lancer des fleurs, moi aussi. Tout à l'heure, au début de l'émission.
Oui, faut pas hésiter. Hein,
c'est une
jamais.
Émission un petit peu avec cette thématique. On se lance un petit peu. C'est la fin de l'année, c'est Noël.
C'est bientôt Noël.
Mais il y a 2 ans, par exemple, je prends une classe qui arrive en seconde. Donc et puis je leur dis, qu'est-ce que vous aimez au cinéma? Surtout, ne vous censurez pas, parce que je suis cinéphile, mais je suis aussi cinéphage. Et moi, je mange absolument de tout, quoi. Donc, je peux tout voir. Je suis pas du tout dogmatique et élitiste, vraiment pas. Donc j'entends. C'était un bruit à la Tati, cool. C'est pas grave.
Excusez-moi, je démonte le studio.
Oui, par exemple, donc il y a 2 ans, les élèves ils me disent j'aime Transformers, j'aime Battleship, j'aime World War Z. Et puis je peux réagir, j'ai vu World War Z, j'ai vu Transformers, il y a pas de problème. Et il y a même des choses intéressantes à prendre, y compris là-dedans. Mais évidemment que je suis très content quand en terminale ils reviennent et que je leur dis bon alors 2 ans après vous en êtes où, et puis que j'entends Fellini, Godard, Kubrick, bon je me dis il y a quelque chose qui passe, et je suis ravi évidemment quand au premier Godard de l'année il y a des gamins qui reviennent en me disant mes parents m'ont dit que c'était chiant et je suis revenu en leur disant qu'ils avaient rien compris.
Oui, c'est plutôt sympa. Je veux juste revenir là sur l'exemple que vous donnez. En début de cycle on donne le nom des films, et finalement en fin de cycle on donne le nom des réalisateurs. C'est-à-dire qu'on donne l'ambiance, la patte et le style, ou pas? Là, vous disiez, ils ont aimé Transformers, ils ont aimé, je me souviens même plus des noms des films.
Oui, c'est ça.
Et après, derrière, ils aiment Godard, ils aiment Fellini.
Les films deviennent du cinéma.
Ouais. Ouais.
Voilà, c'était sur cette notion-là que je voulais revenir.
Comme disait Godard, il y en a qui essayent de faire de films, moi j'essaye de faire du cinéma.
Je vous propose tout de suite une pause musicale et nous vous retrouvons juste après Pierre Carniaux pour parler de la première journée cinéma, celle de Jacques Tati.
Thank you.
Nous écoutions Dickie Landry and the Swing Kings dans le morceau King Saul.
Tout de même pas cet exemple, ah non!
Moi, je fais de belles cocottes en papier. Voyons, sois gentil. Oh, cher ami.
Carniaux, alors on le disait en début d'émission, vous êtes comédien, réalisateur et en charge de la programmation cinéma de la scène nationale. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce qu'on vient d'écouter ?
Eh bien, on vient d'écouter la bande-annonce de Mon oncle, de Jacques Tati.
Donc, Mon oncle, en fait, c'est le premier film qui est programmé dans le cadre de la journée cinéma Jacques Tati, donc, qui aura lieu le 13 décembre à partir de 14h à Évreux. Vous pouvez juste revenir sur l'articulation de ces journées cinéma, comment elles s'organisent en fait ces journées-là
dans le déroulé.
Voilà, ouais, merci.
Eh bien, le rendez-vous est pris à 14h et donc c'est une journée où on vous propose deux films, donc Mon oncle à 14h, puis Playtime aux alentours de 16h, puisqu'on a aussi un invité qui va conduire la journée. On aura le plaisir d'accueillir Stéphane Goudet, qui est Monsieur Tati en France. C'est le spécialiste de Jacques Tati en France. Il a écrit deux ouvrages, un ouvrage sur l'œuvre en général et un ouvrage sur Playtime en particulier. Et puis, c'est aussi lui qui a réalisé tous les films Analyse qui accompagnent l'édition DVD, en fait, qui est très belle, hein, par ailleurs, sans faire de pub.
Alors, du coup, sur cette programmation, est-ce qu'on peut parler un petit peu de Mon oncle, où nous retrouvons Monsieur Hulot ?
Eh oui, on peut en parler, bien sûr. Alors, c'est le troisième film de Jacques Tati. C'est un film dont il dit par la suite qu'il s'y est égaré, mais en même temps, c'est ce qu'on voit dans le film, on voit dès le début, le premier plan du film, c'est des routes, et puis comme d'habitude, des marques au sol, et puis on voit des chiens qui traversent cet espace urbain, et qui ne respectent absolument pas les lignes, qui au contraire marquent leur territoire, à la manière dont le font les chiens. Et puis ça se termine aussi comme ça. Même si, entre-temps, effectivement, Monsieur Hulot, on l'a envoyé voir ailleurs, et il a peut-être disparu. Mais il réapparaît plus tard dans Playtime. Bon.
Mon oncle, 1958, c'est une vision de la modernité, globalement.
Absolument. C'est effectivement la rencontre, on va dire, entre le film a été tourné en banlieue parisienne, à Saint-Maur, et c'est la rencontre entre le petit village des années 50, et puis tout d'un coup, ces bâtiments design et tous les gadgets de la société de consommation en plein essor qui commencent à envahir les intérieurs. Voilà, la maison elle-même étant le clou de ce spectacle, et comme le dit Madame Harpel, chez qui nous passons donc une bonne partie du film, quand elle montre son intérieur, elle est très fière de dire « tout communique ». Et évidemment, tout communique dans l'espace peut-être, même si à chaque fois cet espace est très empêché, c'est très difficile de se déplacer sur ces voies de communication, et que dans la famille, on sent que ça se parle pas beaucoup. Il y a une autre réplique qui est assez qui est pas anodine, où c'est pas une voisine, c'est la femme du collègue du mari qui est invité à la garden party, n'est-ce pas? Et quand Madame Harpel lui dit voyez, voilà mon intérieur, et puis la dame répond ah ben c'est vide. Et elle dit, oui, mais tout communique.
Nous sommes déjà connectés par des portes ou des... C'est un peu, je trouve ça aussi, cette idée qu'on peut être connecté à tout prix, ça circule. Voilà, non, la maison est déjà un espace.
Bon, c'est un film... peut-être c'est le film le plus classique de Tati, puisque là, on peut dire qu'il y a une histoire. Effectivement, il y a le petit garçon de la famille Harpel, le petit Gérard, qui a un oncle, Monsieur Hulot, qui est un peu à côté de cette société et puis de cette nouvelle façon de vivre qui arrive. Et la famille Harpel, en tout cas, aimerait bien qu'il trouve un but dans sa vie et puis peut-être qu'il trouve une femme, enfin, qui soit un peu normale, quoi.
C'est à travers ce côté un peu burlesque. Est-ce qu'il y a clairement une critique de la société, ou est-ce que c'est le burlesque de la société qui est critiqué? Enfin, c'est un petit peu ça le.
Mais je pense que vous l'avez très bien dit.
Je vous en prie.
Non, c'est effectivement à la fois, on peut dire oui, c'est la société qui est critiquée de manière burlesque, mais c'est aussi peut-être le burlesque de la société qui est décrit ici. Mais, ouais, c'est très juste.
Je vous propose qu'on passe au deuxième extrait sonore, sans donner plus de détails, et puis on en parle tout de suite après. Cette fois-ci, nous sommes en 1967 et c'est Monsieur Hulot qui nous propose un tour du monde.
Alors en fait, je dirais que c'est plutôt à la fin de Mon oncle. On l'envoie travailler. On envoie Monsieur Hulot travailler et puis il part pour l'aéroport. Et dans Playtime, Monsieur Hulot, après un certain temps, réapparaît dans un immense building de verre et d'acier, dont dans les premières minutes on sait absolument pas ce que c'est. On se demande si c'est un hôpital ou une espèce de drôle d'hôtel, ou on sait pas trop, et qui se révèle être un aéroport. Et cet endroit se révèle être Paris. Mais il est permis d'en douter, surtout quand on voit donc dans cet aéroport que les affiches promettant des destinations touristiques de rêve se ressemblent toutes, et qu'on voit ce bâtiment de verre et d'acier pour illustrer des capitales du monde entier. C'est-à-dire que Tati, en 67, il avait déjà vu ce dans quoi nous sommes totalement baignés aujourd'hui, à savoir la globalisation. Voilà, c'est un film, pour moi, je l'ai revu il y a très très peu de temps. En fait, je pense que c'est le plus grand film de science-fiction du cinéma français, avec Alphaville de Godard. Et c'est un film absolument stupéfiant, dont l'histoire est incroyable. En fait, juste dès que Tati a terminé Mon oncle, il commence tout de suite à travailler sur Playtime. Donc 58, Mon oncle, et Playtime sort en 67.
C'est beaucoup, enfin, c'est
9 ans de production, temps, ouais. C'est énorme. Et au début, il avait imaginé de travailler en décor réel, mais c'était absolument impossible de bloquer Orly, en fait, pour toutes les chorégraphies et les mécaniques géométriques que Tati avait envie de mettre en place. Bah, donc, ils ont tout construit. Je sais plus, j'avais noté des chiffres, c'est absolument gigantesque. Le budget, il est passé de quelque chose de 3 millions d'euros, si on parlait en euros, à 20. C'est 3 ans de tournage, c'est 45 000 mètres cubes de béton. Il y avait une mini centrale électrique pour alimenter tout le décor. Enfin bon, c'est complètement... c'est un film sur la norme, et c'est un film qui est hors norme. Complètement. Et c'est un film qui est tourné en 70 mm, c'est un des très, 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 très rares films tournés en 70 mm. Donc c'est aussi une image complètement stupéfiante. Et voilà. Et malheureusement, le film est sorti. Il a été vu peut-être par 1 500 000 spectateurs, mais c'était absolument pas assez. Pour rentrer dans ses frais. Et Tati en a souffert jusqu'à la fin de sa vie. Il a fini ruiné. Et c'est un film sur lequel il a hypothéqué sa maison, sur lequel il a dû céder tous les droits de ses films. Bon, voilà, c'est-à-dire, c'est ce que je disais, c'est Tati, c'est vivant. Alors c'est sympa, maintenant c'est un monument, il est statufié, mais à l'époque... voilà.
C'est-à-dire qu'il y a une énorme prise de risque. Ça veut dire qu'il avait une envie impossible à. Enfin, il était obligé de faire ce film finalement. Enfin, dans
oui,
son envie, j'imagine.
Pense. Mais d'ailleurs, c'est quelqu'un qui, donc n'a fait que 6 longs métrages de fiction et qui, quand on le voit en interview, il dit bah, je suis déjà content d'avoir fait cela. Et puis moi, je fais ce que je veux. C'est-à-dire que voilà, je disais Mon oncle, c'est un film. Ouais, c'est un film où on peut encore suivre la narration. Dans Playtime, il désintègre le récit, il atomise les dialogues, il les liquide, quoi. Et là, c'est une espèce de plongée dans un monde. C'est un film monde, et dans lequel on se promène nous aussi, quoi. Et dans lequel parfois on est perdu, et dans lequel il impose, mine de rien, une espèce de rythme effréné. C'est une œuvre insensée qu'on peut voir et revoir, et on va y voir à chaque fois de nouvelles choses. Puisque c'est un monde. Il avait appelé ça Tativille.
Mmh. Oui, d'ailleurs, c'est en allant sur son site officiel, c'est ça. C'est bienvenue à Tativille. C'est vraiment son monde recréé.
Playtime, qu'on pourra retrouver également avec Mon oncle sur la première journée cinéma qui sera consacrée à Jacques Tati le samedi 13 décembre. Avec qui accompagnera cette journée, j'ai oublié.
C'est Stéphane Goudet. Stéphane Goudet qui est le spécialiste de Tati en France et voilà, quelqu'un de passionnant et de généreux qu'on avait déjà invité à la scène nationale les années précédentes. Mais venez tous et venez avec vos enfants, avec vos grands-parents. Enfin, moi j'ai revu encore mon oncle et Playtime avec mon père qui a 60 ans maintenant, qui avait vu ça quand il avait 8 ans et puis il était super content de le revoir encore avec moi. Et puis moi je serais super content de le regarder avec ma fille dans pas très longtemps. Enfin, voilà.
Très bien, en tout cas c'est du cinéma qui se partage.
C'est ça.
Merci Pierre Carnio de nous avoir livré toute cette passion à nos micros. Nous repartons en musique avec Suzanne Cadogan. Thank you. John Cadogan avec le titre Earth So Good qui va faire écho à la programmation de ce week-end sur Évreux sur le festival Solidact Reggae.
Bonjour Mohamed El Khatib, vous nous entendez? Oui.
Bonjour, je vous entends bien.
Bonjour. Donc vous êtes membre du collectif Zirlib qui est un espace de création contemporaine, et nous voulions vous accueillir aujourd'hui pour nous présenter votre spectacle, vos spectacles qui seront proposés à Évreux le 8 janvier prochain, avec Moi Corinne Dada et Finir en beauté. Moi Corinne Dada, vous nous plongez dans une rencontre improbable entre une femme de ménage, un auteur, une danseuse et une machine. C'est bien cela?
C'est ça.
Alors, moi j'avais envie de vous lancer sur votre collectif qui est quand même à la croisée de plusieurs chemins, entre le banal, le quotidien, la technique.
Alors justement, la technique nous fait défaut. Voilà, je vais proposer de rappeler tout de suite pour reprendre en insert téléphonique notre invité, si vous le voulez bien.
Oui, ben bien sûr. Donc, j'étais en train d'expliquer que le collectif de Mohamed El Khatib est un collectif de création assez inhabituel. Voilà, on n'est pas dans le cadre d'une compagnie qui va monter un texte. On est vraiment sur l'esprit de rencontre où le plateau et l'acte de création intervient vraiment à la croisée de la rencontre entre les gens du quotidien, le social, mais aussi la technologie.
Oui, j'allais te dire, Nat, pour rebondir un petit peu, c'est pas une rencontre effectivement entre un metteur en scène et un texte, par exemple, et le plateau, bien entendu, mais en fait, la rencontre entre des formes, des matières qui seraient complètement improbables sur un plateau. Et je crois que nous avons récupéré Mohamed. Rebonjour Mohamed.
Oui.
Rebonjour. On a été coupé. Donc oui, Collectif Zirlib, votre vous posez l'acte de création à la croisée de ces chemins, de ces domaines entre, je dirais, le banal, le quotidien, le social, la technologie. Vous pouvez nous expliquer un peu le principe de ce collectif?
C'est toujours un principe de rencontre, d'abord. Et là, le point de départ, c'était une rencontre avec une femme de ménage. Et ce qui m'a frappé, c'était sa gestuelle. Je me suis rendu compte que quand elle travaillait au quotidien et si on lui enlevait ses instruments, alors, ça s'apparentait à un ballet chorégraphique, d'où l'idée d'y associer une danseuse. Et puis, dans nos discussions qui revenaient en permanence, c'était « Mais d'ici une dizaine d'années, je risque d'être remplacé par une machine. » Alors, on s'est dit « Ramenons aussi une machine, alors, et faisons un plan de compétences. Quelle est la plus compétente en ménage? Est-ce que c'est la femme de ménage, la danseuse ou la machine ?» Et c'est ainsi qu'est née l'idée de ce projet.
Que vous avez concrétisé sur un plateau ensemble pour une série de représentations qui se déroulent là en ce moment sur la Haute-Normandie notamment.
C'est ça.
Oui, et donc Corinne Dada, c'est vraiment une femme que vous avez rencontrée, femme de ménage.
Tout à fait.
Ça s'est passé comment? Une rencontre directe, spontanée, comme ça, dans la rue, à travers votre métier?
Oui, enfin, il se trouve que moi j'encadrais un stage de théâtre. Et elle faisait le ménage dans la salle où on travaillait. Donc on se croisait simplement le matin quand on arrivait et le soir quand elle repartait. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'elle disait jamais bonjour. Et du coup, j'ai fini par l'interpeller. Et là, elle m'a dit, mais vous voulez que je vous dise le nombre de fois où j'ai dit bonjour dans ma vie? On m'a pas répondu. Et alors, ça a été le point de départ de la rencontre. Je me suis intéressé à elle, à son travail. Et c'est comme ça que... par hasard qui est née cette rencontre et qui est devenue un spectacle.
Alors, du coup, vous convoquez en fait le réel sur le plateau, parce que ça, c'est quand même très, très surprenant. Enfin, en tant que spectateur, c'est assez surprenant, assez déroutant, je ne vous le cache pas. Moi, j'ai été un peu déroutée en fait par la présence de Corinne sur le plateau. Et j'ai eu l'impression, pour moi, vraiment, il y a un côté documentaire dans ce que vous, enfin, en tout cas moi, dans ce que j'ai vu sur le plateau avec Corinne Dada, plus que dans Chip, par exemple, qui est une de vos précédentes créations.
Tout à fait. Mais j'ai voulu aller plus loin que dans Chip, c'est-à-dire, on utilise le terme de documentaire, théâtre documentaire, et la bonne formulation, puisque je voulais confronter le réel à nos pratiques et pas avoir un professionnel de la scène qui répéterait exactement ce que je lui demanderais, mais d'avoir une part d'incertitude. Et l'incertitude, on l'a avec la présence de Corinne, qui est extrêmement fragile, qui n'est pas actrice, qui par ailleurs a des problèmes de mémoire, qui tombe très bien pour la pièce, qui fait que la pièce est en permanence déréglée. La partition est en permanence déréglée, elle improvise beaucoup. Et du coup, ça donne pour moi quelque chose de vivifiant et qui me met en danger aussi, moi, sur le plateau, plutôt que d'avoir à reproduire une partition extrêmement réglée. Et donc, j'ai le sentiment de me rapprocher plus de ce que pourrait être une forme de réel que ce que j'avais fait avec Chip auparavant, où c'était, bien que c'était d'inspiration documentaire, puisqu'il s'agissait de la vie des interprètes, mais ça restait des interprètes professionnels.
Alors, on va continuer, enfin, on reviendra, moi, je pense, dans Scène de vie sur moi, Corinne Dada. Mais là, pour aujourd'hui, pour boucler notre émission d'aujourd'hui, au moment de votre venue avec moi, Corinne Dada, il y aura un autre spectacle qui sera présenté, qui s'appelle Finir en beauté. Là encore, on retrouve l'idée du documentaire, puisque c'est présenté comme une performance documentaire. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de cette performance, justement, qui sera présentée en parallèle à Corinne Dada?
Tout à fait. Suite à la mort de ma mère, qui est morte d'un cancer, je me suis rendu compte qu'en 2 ans, le mot cancer n'a jamais été prononcé. Et donc, tout le monde tournait autour du pot, les médecins, les frères et sœurs, etc. Et donc, j'ai essayé de reconstituer un peu cette fresque. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le mot cancer n'a jamais prononcé? J'ai fouillé tous les documents, j'ai repris tout un tas d'enregistrements à l'hôpital, avec les médecins, avec ma mère. Et pour essayer de comprendre comment on fait face à la maladie et aux questions de fin de vie. Du coup, j'ai filmé aussi toutes les questions de deuil, c'est-à-dire tous les moments d'embarras où les gens ne savent pas quoi dire, au moment des condoléances. Voilà, cette question qui est un peu taboue, celle de la mort, j'ai voulu ici la porter sur scène, mais à partir d'une histoire extrêmement intime qui est la mienne, matériaux à l'appui, et puis d'essayer de la partager, quoi, pour qu'on puisse réfléchir après collectivement sur une question qui concerne tout le monde, puisque je me dis, soit on a perdu sa mère, soit on risque de la perdre. Donc on pourrait dire que le monde se divise dans ces deux catégories-là.
Bien, merci Mohamed. Nous sommes contraints par cette fois-ci le temps. De toute façon, nous ferons écho à votre présence et je pense que le jour de votre venue, on sera présent et peut-être qu'on prendra davantage le temps d'une interview avec vous et avec votre équipe, vraiment avec grand plaisir. Merci, bonne continuation à vous et merci à très vite, au 8 janvier. Au revoir.
Au revoir.
Bien, le temps file.
Et le temps nous est plus compté.
Et ça y est, le temps très très en deux mots. Tu voulais nous parler d'un événement?
Je voulais parler de deux, trois choses.
On va zapper l'agenda.
Prochaine émission de Scène de vie, vide scène, le vendredi 2 janvier. Et ce n'est pas une blague, mais nous ne serons pas avec vous. C'est une émission spéciale qui reviendra sur les moments exceptionnels que nous avons passés ces derniers mois. Je voulais parler également de la fête de la soupe à Louviers le vendredi 16 janvier, sur lequel vous retrouverez une émission spéciale de Scène de vie, vide scène, parce que ça nous fait plaisir de manger de la soupe, parce que ça nous fait plaisir de parler avec les gens. Eh bien, nous vous ferons partager ce moment en direct. Et puis, deux autres événements, nous parlons souvent de la scène musicale, et je voulais revenir sur les scènes ouvertes de la MJC qui se dérouleront le 19 décembre à partir de 20h à l'Abordage Club. Soirée entrée gratuite et c'est l'occasion de découvrir trois jeunes groupes de la région hébroïcienne, à savoir Poulet, Le Labo et Mine. Entrée gratuite à 20h, c'est une soirée à ne pas manquer. Dans les autres soirées, il y a ce week-end, ce soir, le vendredi 5 et samedi 6 décembre, le Solidact Reggae. C'est un plateau d'une dizaine d'artistes reggae qui se succéderont au 13 bis durant le week-end. Le prix de l'entrée, 7€. Voilà.
Et retransmis sur Principe Actif.
Gratuitement sur Principe Actif.
Gratuitement sur Principe Actif, c'est ça. Juste un petit focus, une expo au RIF à la MJC de Patrick Offray, un journaliste qui est passionné de musique et en particulier de rock, qui en fait a écumé les concerts pour shooter les plus grandes stars de la scène, et c'est jusqu'au 20 décembre au RIF à la MJC d'Evreux. Et bien sûr,
et je vous rappelle que actuellement se déroule le festival européen du film d'éducation, qui se déroule également au ciné Gaumont-Pathé, que nous avons évoqué durant cette émission, et qui se termine samedi. Pierre,
Vous voulez ajouter quelque chose sur le festival du film? Je crois que vous avez fait les premiers jours.
Oui, ce matin, enfin, j'étais juste avant de venir, j'étais au débat éducation et cinéma. C'est des questions qui me passionnent, bien sûr.
Très bien. Nous, on se dit au revoir et nous nous retrouvons en enregistré
le
2 janvier. Entre deux, bon, on vous souhaite un bon mois de sortie.
À bientôt.
À bientôt.
À bientôt.